Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je coanime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Dimitri Minik. Il est chercheur au Centre Russie-Eurasie de l'IFRI et auteur d'un ouvrage remarqué intitulé « Pensée et culture stratégique russe », publié l'an dernier aux éditions de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Cet ouvrage est tiré de sa thèse de doctorat, soutenue à la Sorbonne en 2021. Il a également publié l'étude de l'IFRI la plus téléchargée en 2023, bravo Dimitri, qui a pour titre « Que pense l'armée russe de sa guerre en Ukraine ?» sans oublier des contributions au rapport Ramsès ainsi qu'à la revue Politique étrangère. Dimitri Minik, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Vous êtes un lecteur régulier de revues militaires russes, notamment de Voyanaya Moïsl, qui veut dire pensée militaire en russe. Vous avez montré dans vos écrits que vous pouviez entrer dans des considérations tactiques, opératives ou stratégiques très précises. Tel n'est pas toutefois le but de ce podcast, qui ne s'adresse pas uniquement à des spécialistes des questions de défense. Je vais donc commencer par une question générale. La guerre en Ukraine entre dans sa troisième ou sa onzième année, selon que l'on considère comme point de départ l'invasion de février 2022 ou l'annexion de la Crimée en 2014. Quelle est votre appréciation globale de cette guerre et de l'évolution du rapport de force ?
Bah écoutez, je crois que pour commencer, pour essayer de comprendre l'évolution du rapport de force et avoir une vision un peu globale de cette guerre, il faut d'abord analyser la guerre en Ukraine comme un objet politique. Et d'abord commencer par ce fait-là simple, c'est que cette guerre est de la responsabilité de Moscou, dont les élites politico-militaires, depuis des dizaines d'années, n'ont cessé de manifester une hostilité radicale à l'existence d'une Ukraine indépendante, pro-occidentale, et à une Ukraine démocratique aussi. Et je crois que c'est avec ces épithètes qu'on peut tenter de définir la guerre au sens politique. C'est une guerre impériale, d'une puissance impériale qui ne veut pas renoncer à son histoire coloniale contre une de ses anciennes possessions, l'Ukraine. C'est une guerre d'un régime autocratique, certains diraient plutocratique, contre une démocratie, un pays qui favorise le dialogue, l'échange, le débat. Qui est perçu à Moscou comme potentiellement un pôle d'attraction, hein, de manifestation, de déstabilisation. Et le troisième point, c'est aussi une guerre contre l'Occident, contre l'Ukraine qui est vue comme un proxy de l'Occident. Et donc c'est une guerre multidimensionnelle de ce point de vue-là. Et ça en dit long, d'ailleurs, c'est sur les objectifs avoués ou non de la Russie. L'Ukraine n'est pas la seule donnée de l'équation. Et on voit bien qu'en 2021-2022, si vous voulez, le Kremlin a analysé cette année-là comme un kairos, hein, comme une manière de renverser la table, pas seulement localement, pas seulement au niveau de l'Ukraine, mais au niveau régional et même mondial. Réviser l'architecture de sécurité européenne, ce qui sont des vieilles lubies historiques de Moscou, hein, c'est étendre son influence en Europe, et pourquoi pas d'ailleurs réformer l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui. Ensuite, j'irai rapidement sur la guerre en tant qu'objet stratégique, qui est un autre sujet, mais ces sujets sont évidemment interconnectés. Cette guerre, elle est protéiforme. On ne peut pas dire que la guerre a commencé en 2022, et je ne pense même pas qu'on puisse dire qu'elle a commencé en 2014. En fait, cette guerre, elle commence en 2004-2005, à partir du moment où l'Ukraine décide d'avoir un autre destin que celui d'être un allié ou une possession à demi-couvert de la Russie. Et au fond, je dirais que cette guerre en Ukraine, elle a connu au moins 5 phases. Et une guerre, quand je parle de guerre en Ukraine, je parle de guerre au sens large que les théoriciens militaires, les élites militaires et la doctrine a fini par donner à ce concept qui dépasse la lutte armée. Je dirais qu'il y a 5 phases, je vais aller très rapidement. La première phase, 2004-2014, qui est une phase de pression non militaire. 2014-2021, qui est une phase de stratégie indirecte intégrale. 2021-2022, on a observé une forme de dissuasion stratégique intense contre l'Ukraine et contre l'Occident. 2022, avec l'opération militaire spéciale, qui est une sorte d'objet stratégique évanescent, qui a disparu aussi vite qu'il est apparu. Et 2022 jusqu'à maintenant, c'est la guerre longue et de haute intensité qui sur laquelle a débouché l'opération militaire spéciale ratée. Donc je crois que c'est ça, il faut voir l'ensemble de ces phases, non pas comme évidemment un plan bien conçu et une suite logique et rationnelle et efficace, mais comme une succession d'échecs hein, de tentatives russes, et qui a déterminé la guerre telle qu'elle est aujourd'hui. Et ce point fondamental qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, l'armée russe, le Kremlin comptait prendre ou soumettre Kiev, qui est une ville de 3 millions d'habitants, et qu'il y a quelques jours, Poutine s'extasiait que l'armée russe s'empare de quelques maisons dans la banlieue d'Avdivka, qui est une ville de 100 fois moins peuplée. Donc on voit bien l'impact de cet échec initial.
On peut peut-être quand même revenir sur certains points que vous avez mentionnés là, parce que je pense que ça va surprendre certains de nos auditeurs que vous fassiez commencer la chronologie en 2004 et que vous parliez de guerre dès 2004, parce que effectivement, quand vous dites la guerre, ça dépasse l'affrontement armé, c'est pas la conception qu'on en a. On pourrait parler de tensions, de conflits, mais pas nécessairement de guerre. Donc j'imagine que si vous employez ce terme-là, c'est pour une raison bien précise. Peut-être qu'il a été conceptualisé par des théoriciens militaires russes. Donc ça, il faut nous le préciser et puis surtout expliquer pourquoi 2004. Qu'est-ce qui se passe en 2004 ?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce qui se passe en 2004-2005, c'est simple. C'est une arrivée au pouvoir de forces pro-occidentales en Ukraine. Les Ukrainiens font le choix d'une force déjà démocratique, plus démocratique et pro-occidentale, ce qui est très mal perçu, évidemment, à Moscou. Et quand je parle de guerre au sens métaphorique qu'il pouvait avoir à l'époque soviétique, au sens très large, eh bien, ce sens très large est devenu réalité dans la théorisation stratégique russe. Progressivement, les théoriciens militaires russes sont sortis de l'idée que guerre égale lutte armée directe ou violence armée directe. La guerre, c'est beaucoup plus large que ça. Et Gerasimov a été le chef d'état-major des forces armées russes, a été un élément important et un acteur important de cette transformation théorique, stratégique et même doctrinale en réalité.
Dimitri, là, vous parlez de l'échec de l'armée russe, alors que moi, j'allais vous demander pourquoi la contre-offensive ukrainienne de 2023 a-t-elle échoué et pourquoi on est dans une impasse, pour reprendre le terme employé par le chef d'état-major de l'armée ukrainienne en novembre dernier.
Bah, je crois qu'il faut d'abord essayer de définir le cadre dans lequel cette contre-offensive s'est inscrite, dans lequel elle a eu lieu. Si vous voulez, la guerre longue et de haute intensité, elle peut se diviser, sur laquelle a débouché l'opération militaire spéciale ratée, elle peut se diviser grossièrement en 3 phases. La première phase, qui est une phase de mouvement, qui s'est jouée entre février et mars 2022 et qui s'est soldée par une retraite partielle de l'armée russe des environs de Kiev, hein, du nord et de l'est du théâtre ukrainien, et au fond, qui a été suivie ensuite, cette première phase de mouvement, par une autre phase avec une concentration des objectifs russes plus sur le Donbass. Alors, une révision des objectifs stratégiques russes à ce moment-là, à partir de mars 2022, qui n'est pas une révision des objectifs politiques. L'objectif politique reste très, très probablement encore la soumission de l'Ukraine comme acteur politique. Et cette première phase, elle a été suivie d'une autre qui elle-même s'est soldée en septembre, jusqu'à septembre-novembre 2022, par une succession de 2 défaites russes. Une à Kherson, qui est un territoire méridional de l'Ukraine conquis par la Russie assez vite dans le conflit. Et une contre-offensive, une manœuvre à Kharkiv, qui se situe au nord-est du Donbass. Et au fond, ce qui est important, c'est que ces deux offensives, ces deux réussites de l'Ukraine, elles n'étaient pas réussies pour les mêmes raisons. C'était 2 mouvements différents, ce qui nous a montré des capacités opérationnelles importantes de l'armée ukrainienne. Et je dirais que la troisième phase, c'est en gros 2023, je dirais que c'est l'année 2023, et que cette phase nous a réellement montré, au fond, elle nous a révélé la nature profonde de cette guerre, sa forme, son contenu. C'est une guerre positionnelle, c'est une guerre de tranchées, si je veux dire, c'est une guerre de position. Et en fait, il faut voir la contre-offensive à Kharkiv en septembre 2022, une contre-offensive ukrainienne réussie, plutôt comme une anomalie, en fait, hein, dans ce conflit, une exception. C'est vraiment une guerre de position. Et je crois que c'est la première explication de la défaite La défaite de l'échec de cette contre-offensive ukrainienne. La première explication, je crois, c'est la nature intrinsèque de cette guerre. Et je dirais que, au fond, elle rend très difficile pour un attaquant de percer une défense, surtout une défense qui a eu plus de 6 mois pour se construire. La défense russe, elle a été travaillée pendant 6 mois, elle a été profonde, échelonnée. Les Russes ont usé et abusé des mines. Et les Ukrainiens n'étaient pas forcément préparés, d'ailleurs. Il leur manquait beaucoup de démineurs. Par ailleurs, les enseignements tactiques des armées occidentales n'étaient pas forcément très adaptés en fait, au théâtre ukrainien et à cette contre-offensive qui allait venir. Deuxièmement, je dirais rapidement, au-delà de la forme du conflit, je dirais qu'il y a les choix ukrainiens. Le premier point, on peut se demander si les Ukrainiens n'ont pas trop tardé pour conduire cette contre-offensive. Alors, il y avait un problème pour eux. Il fallait entraîner les brigades qui allaient être engagées. Il fallait un temps d'entraînement minimal. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont attendu. Le problème, c'est qu'on juge à la fin, c'est que même ce temps d'entraînement était trop court. Donc, vous voyez, c'était un choix très difficile à faire. Et ces choix, d'ailleurs, ukrainiens, ont souvent été contestés par Washington et par les alliés. Les Ukrainiens ont vraiment fait leur choix. Ils ont conduit leur contre-offensive comme ils l'entendaient. On peut aussi se demander, d'ailleurs, si le fait d'avoir voulu pousser l'armée russe à une attrition maximale à Bakhmout pendant plusieurs mois avant la contre-offensive, c'était une bonne stratégie. En fait, Moscou n'accorde pas le même prix à la vie humaine que Kiev et les Occidentaux. Donc c'était peut-être aussi une illusion de croire que par une attrition maximale à Bakhmout ou ailleurs, Poutine allait céder fondamentalement. Donc voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire.
Et sur le terme d'impasse là évoqué par Cathy, qui a donc été mentionné par le chef d'état-major de l'armée ukrainienne dans une interview à The Economist, si je ne m'abuse, l'année dernière. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pose la question notamment parce que dans le prochain numéro de la revue Politique étrangère, là, qui sort en mars 2024, il y a un article signé à plusieurs mains d'Elie Tenenbaum, de Johann Michel et d'Olivier Schmitt, qui parle d'impasse en trompe-l'œil, en disant qu'en réalité, cette vision de l'impasse est peut-être une illusion, ou en tout cas elle est temporaire, et qu'à un moment donné, il va y avoir à nouveau une prise d'initiative d'une des deux parties, et que ce conflit peut évidemment évoluer.
Et évidemment, d'ailleurs, je crois que quand on parle de guerre de position et de guerre de tranchées, il faut pas se méprendre. Cette guerre est très dynamique. C'est simplement que les échanges armées ne se manifestent pas, ne se traduisent pas forcément par des avancées territoriales impressionnantes. Mais effectivement, c'est une guerre très dynamique. En fait, les Russes ont fait beaucoup d'offensives depuis le début, mais simplement, elles ont été peu visibles ou peu médiatisées parce qu'elles ne produisaient rien ou pas grand-chose. Et la contre-offensive ukrainienne a été très médiatisée. D'ailleurs, les Ukrainiens ont probablement bien joué ce coup-là. Simplement, elle était aussi le fruit d'une... peut-être qu'on en parlera un peu après, d'une sous-estimation de l'armée russe et d'un événement important qui, à mon avis, a été la contre-offensive de Kharkiv et qui a eu un impact très important sur la psyché, les cadres cognitifs occidentaux et russes. Je dirais juste peut-être un dernier point sur une explication en fait, de cette impasse, de cet échec de la contre-offensive ukrainienne. On pourrait imputer à l'Occident en fait, les fameux tabous sur le matériel militaire. Le matériel militaire qui a mis un peu de temps à arriver. Un matériel militaire qui était utile, qui aurait pu être utile, les F-16, les Atacames, les Abrams et aujourd'hui les Taurus allemands. Mais en fait, ça aurait probablement amélioré les gains, renforcé les gains de l'Ukraine, mais ça aurait sûrement pas créé, ça aurait probablement pas été décisif pour plein de raisons dans lesquelles on va pas rentrer, mais notamment parce que les Russes ont su s'adapter aussi en fait à ce type de d'armes. Et je dirais que l'autre aspect pour peut-être conclure, c'est que certes, il y a eu un échec de contre-offensive ukrainienne, mais dans cet échec, il ne faut pas omettre la bonne performance russe. C'est le sujet aussi.
Justement, est-ce qu'on peut dire que les Ukrainiens et les Occidentaux ont sous-estimé la résilience de l'armée russe? Et si oui, pourquoi?
Oui, je pense qu'ils l'ont sous-estimé, ils ont sous-estimé cette résilience, et je pense qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé ils ont sous-estimé ce qui s'était passé à Moscou depuis septembre, octobre 2022. Et je crois que là, le point nodal, le point de départ, en fait, de cette méprise, de cette incompréhension, de cette sous-estimation, c'est la contre-offensive réussie des Ukrainiens à Kharkiv, qui, comment dire, a eu un impact en fait politique et psychologique considérable, à la fois sur la Russie, c'est pas tant, mais aussi sur les Ukrainiens, sur Kiev et sur les Occidentaux. se murmurait au Pentagone, à Washington, que en fait, les Ukrainiens pouvaient gagner la guerre. C'était aussi ça, l'impact de cette contre-offensive. À Moscou, n'en parlons même pas. Moscou, ça a été une rupture très importante. La mobilisation, là, dans une mobilisation partielle officielle, ce que Poutine avait toujours cherché à éviter hein, depuis le début. La mobilisation de l'économie, même s'il y avait eu des mesures qui avaient été prises quelques mois auparavant, là, elles ont été clairement renforcées. Et la Russie est passée en économie de guerre, clairement. Je dirais aussi que l'autre point, en fait, la Russie a su prendre des risques à ce moment-là. Ça a été un moment très compliqué, très dangereux pour elle. On se souvient qu'à l'époque, ça a donné lieu, cette l'image d'un Poutine affaibli, d'un Poutine qui avait eu tort, en fait, qui n'avait pas militarisé assez la Russie. Il ne faut pas oublier que ça avait permis l'émergence d'un discours nationaliste radical, mais critique, dans une Russie qui était au sein de laquelle il y avait quand même un consensus sur la guerre et en fait ce discours avait été incarné par des par de vraies figures hein, comme Prigojine, Kadyrov et avec le résultat qu'on connaît. Poutine avait s'était senti contraint de remplacer le chef du théâtre ukrainien. Il avait nommé Sourovikine à l'époque, hein, général Sourovikine, qui passait pour un partisan de ces voix discordantes et nationalistes. Et donc, mais progressivement, il a repris la main, Poutine. C'était un moment très difficile à passer pour le régime russe. Il a repris la main, et je dirais que la fin de cette période qui a commencé avec cette contre-offensive russe ukrainienne, c'est la probable élimination physique de Prigojine qui a été conforté, ce tournant bien négocié de la Russie a été conforté par l'échec de la contre-offensive.
Oui, Dmitri Minnick, j'aimerais revenir justement sur ces aspects critiques côté russe. Là, vous venez d'expliquer qu'il y a une critique politique, un certain degré qui est permis ou pas d'ailleurs par le Kremlin, puisqu'on voit que Prigojine a quand même mal fini, si je puis me permettre cette expression. Mais dans vos écrits, vous soulignez aussi que l'appareil militaire russe est capable de critiques tactiques, de critiques opératives et même de critiques stratégiques. Est-ce que vous pouvez expliquer comment se développe et s'exprime cette forme d'esprit critique au sein des armées russes et comment se passe en quelque sorte le processus de rétex qui permet aux armées russes d'innover ?
Oui, en fait, la critique dans l'armée russe, elle est courante dans le discours public russe en tout cas. Elle est assez courante et elle exprime, je dirais qu'elle exprime moins des désaccords essentiels, des accords de fond qui pourraient avoir trait aux croyances centrale des acteurs politiques et militaires russes de haut niveau ou sur des remises en cause du mode de pensée hein, assez commun de ces élites, mais sur des divergences d'ordre stratégique, tactique, sur la manière de procéder. Elle est courante, je dirais qu'elle se manifeste de deux grandes manières pour schématiser, pour caricaturer. Elle peut être verticale et horizontale. Horizontale parce qu'il y a énormément de débats entre les militaires eux-mêmes, hein, de rangs plus ou moins équivalents. Public, des débats publics, et parfois très durs, avec des critiques acerbes entre eux, mais aussi verticales. Une critique verticale qui s'exprime, qui a pu être directe, honnêtement, depuis le 24 février 2022, j'ai pas vu le moindre cas de critique directe. Mais disons que ce qui a toujours était fondamental dans cette expression, ça a été la critique indirecte. Il y a tout un nuancier de critique indirecte, je pense que c'est un héritage aussi de l'époque soviétique. Hein.
Vous pouvez donner des exemples ?
Bah, si vous voulez, y aurait plein d'exemples. Je pense que les principales, on peut prendre l'exemple de ce qui s'est dit sur l'Ukraine. Déjà, un exemple peut-être de critique directe. Vous pouviez trouver encore dans les années 2000 des militaires haut placés qui pouvaient se permettre de critiquer le régime russe, régime considéré comme trop autocratique, ou la dimension oligarchique de ce régime. Je me souviens de militaires russes qui évoquaient les parasites qui entouraient la présidence russe et ce qu'elle incarnait, ces gens qui parasitaient sur le pipe, je cite là, hein, qui parasitaient sur le pipe pour dire qu'ils accaparaient les ressources naturelles de la Russie et qu'ils s'enrichissaient avec. En critique indirecte, c'est tellement large. Si vous voulez, là, si on prend l'exemple de l'opération militaire spéciale de la guerre en Ukraine, Elle a porté sur, par exemple, les forces terrestres, l'utilisation des forces terrestres, les fameux BTG, les groupes de bataillon tactique, avec des formules dures. On s'est bercé d'illusions avec l'idée que ces fameuses BTG pouvaient être les formations tactiques de l'avenir. En fait, on s'est lourdement trompé. C'est indirect dans la mesure où ça ne remet pas en cause la compétence directement des élites, des plus hautes élites militaires et politiques. Mais quand même, on peut dire que ça, c'est le plus haut qu'on peut trouver, le degré le plus intense qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans la littérature militaire. Je vous donne une expression. En fait, ces BTG étaient censés être des loups. Et en fait, elles se sont retrouvées comme des vaches face à une meute de loups, face aux Ukrainiens.
On va avancer dans la conversation, mais quand même en un mot, si vous pouvez expliquer très brièvement ce que sont les BTG et pourquoi ça a posé problème.
Alors, les groupes de bataillon tactique, ce sont des formations tactiques qui ont été pensées, en fait, dans l'armée russe dans les années 90-2000. C'est un long processus théorique et qui étaient censés, décentraliser, rendre plus souple, plus professionnel plus adapté aux conflits modernes, la stratégie russe et la volonté russe surtout d'agir dans son espace, dans son étranger proche, ce qu'elle appelle son étranger proche. Le fait est que c'est une armée plus compacte. L'idée, c'est d'avoir une armée plus compacte, plus professionnelle, mieux entraînée. Le problème, il y avait plein de problèmes intrinsèques, hein. Les BTG étaient critiqués déjà avant la guerre en Ukraine. Ce sont des problèmes latents qui sont apparus en toute clarté à ce moment-là. Ils se sont retrouvés avec un manque d'organisation, un manque de structure, et comme je vous disais, des problèmes qui précédaient la guerre, c'est-à-dire des BTG qui n'étaient pas assez formés, avec des hommes qui n'étaient pas complètes, avec pas assez de matériel, avec pas assez de soutien, donc ça a créé de gros problèmes face à des unités ukrainiennes qui étaient plus souples, qui avaient une meilleure rapidité dans la décision, plus d'innovation, plus de prise de décision, plus d'initiative, au fond, je dirais que la Russie a réussi à s'adapter à ça, c'est-à-dire que la Russie a abandonné progressivement ce concept de BTG. Mais en fait, elle y a été forcée, tout simplement. Hein. Elle a été forcée de l'abandonner parce qu'il était mort-né en Ukraine, en vérité. Et en créant des unités plus petites, plus souples, en séquençant mieux les vagues d'attaques de l'infanterie, etc., en utilisant beaucoup plus des unités d'élite dans les attaques, et surtout dans les agglomérations urbaines, dans les zones urbaines.
Merci pour ces précisions. J'aimerais maintenant qu'on se projette un peu sur la suite de l'année 2024 et même sur la fin de l'année 2024, puisqu'il y a une grande inconnue qui est l'élection américaine de novembre. Et à l'heure où on parle en février, Donald Trump semble avoir le vent en poupe. Alors évidemment, rien n'est joué, mais il y a donc une grande interrogation sur ce qu'il pourrait advenir en cas de victoire des républicains à cette élection, pour ce qui est en particulier du soutien à l'Ukraine. Donc, la question est la suivante, c'est est-ce que vous pensez que l'Ukraine pourrait résister, pourrait tenir le coup si le soutien américain venait à baisser significativement, voire à disparaître.
Et même en ce moment, on voit que le Congrès américain n'arrive pas à passer de l'aide pour l'Ukraine, même aujourd'hui.
En fait, l'année est au risque très rapidement, d'abord sur l'élection présidentielle russe. Il est probable que Poutine cherche à obtenir un gain substantiel pour fêter, hein, entre guillemets, cette élection en Ukraine, probablement Avdiivka, et peut-être même une contre-offensive russe dans la région de la contre-offensive ukrainienne réussie, pour laver définitivement cet échec et pour passer le message aux Occidentaux et aux Ukrainiens qu'il n'y a aucun espoir pour l'Ukraine. En fait, c'était une mauvaise passe et que la Russie va gagner et que la Russie domine. Et bien sûr, la question de l'aide américaine, elle est fondamentale, elle a été fondamentale, elle continuera de l'être. D'abord, sur la question des munitions, hein, 255 mm, qui était fondamentale pour l'Ukraine. Mais on voit quand même que l'Union européenne a su prendre ses responsabilités aussi, avec l'accord de 50 milliards. Après, ça ne suffira pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'avec les taux actuels, avec même les ambitions actuelles, l'Ukraine serait quand même désavantagée dans le rapport de feu par rapport, si on parle juste de munitions et d'obusiers, d'artillerie, elle serait désavantagée par rapport à la Russie. Mais le fait même que cette aide américaine ne soit pas votée, et qu'une perspective même de victoire démocrate aux prochaines élections n'assure pas une aide dans la durée, ça doit faire prendre conscience à l'Union européenne qu'elle doit aussi chercher à compenser cette aide, aller plus loin, aller plus fort dans l'aide à l'Ukraine, parce qu'elle y a tout simplement intérêt. Hein. Voilà. Et je dirais que pour l'Ukraine, il y a deux problèmes à moyen terme. Ça va être effectivement le manque de munitions. Donc là, les objectifs américains ont été remplis probablement plus vite que les objectifs européens, même si à la base l'Europe avait plus de capacité pour produire ces munitions. Mais l'Europe monte en puissance à ce niveau-là, il faudrait qu'elle monte beaucoup plus en puissance. Et puis il y aura un problème de ressources humaines, et un problème de ressources humaines qui se traduit par de deux façons. Déjà, rappelons le rapport de force originel. L'Ukraine, elle est trois fois moins peuplée que la Russie. Peut-être aujourd'hui cinq fois moins peuplée, avec l'émigration et avec les pertes, 4 à 5 fois moins peuplée. Et puis, il y a l'autre point qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'Ukraine est une démocratie. L'Ukraine, elle peut pas, Zelensky ne peut pas décider demain dans son bureau tout seul de mobiliser 400 000 hommes et de les envoyer au front. Le projet de loi actuel sur la mobilisation en Ukraine montre bien, reflète bien, au-delà de si vous voulez de ces problèmes, elle reflète bien la divergence de nature entre la Russie et l'Ukraine. La Russie a décidé d'un coup, d'un seul, parce que Poutine l'a décidé, de mobiliser comme ça 400-500 000 hommes. L'Ukraine, c'est pas la même chose, et c'est à la fois sa force d'être une démocratie, mais c'est aussi probablement une faiblesse face à des pays dictatoriaux ou à des autocraties.
Dimitri, pour terminer, à plus long terme, quel scénario de sortie de guerre peut-on envisager ?
Scénario de sortie de guerre, moi je vois deux types de scénarios, soit de fin ou de pause significative des actions de combat, soit une sortie de guerre par une forme de négociation, une négociation précoce, soit par un épuisement d'un des deux belligérants, suivi ou non d'une négociation d'ailleurs. Alors, on parle souvent de la possibilité que Trump puisse mettre fin à la guerre avec un accord, une négociation entre Poutine et Zelensky. Mais je crois qu'on ne dit pas assez que c'est assez peu probable que Trump y parvienne, pour plein de raisons. Je dirais que la première, c'est que les Ukrainiens ne voudront pas céder leurs terres parce qu'ils savent aussi que ça ne signifierait pas, en fait, un accord de paix avec la Russie ou un cessez-le-feu ne signifierait pas la fin de l'agression russe. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'UE s'affirme de plus en plus, elle doit poursuivre cela comme un partenaire viable pour l'Ukraine. Le deuxième point, c'est que la Russie est persuadée que l'OTAN joue avec elle. À ce stade, elle n'a pas d'intérêt, en fait, à négocier un accord ou une trêve, un cessez-le-feu, bien sûr, sauf si ce qui lui est présenté est très juteux, ça serait l'annexion de tous les territoires méridionaux de l'Ukraine jusqu'à Odessa, la région de Mykolaïev, mais même ça, elle ne s'en contenterait pas en réalité dans la durée. Et voilà. Après, n'oublions pas que le principal objectif de la Russie, objectif stratégique en dehors du théâtre ukrainien, c'est d'isoler l'Ukraine du soutien occidental. C'est son premier objectif. Et s'il faut que le Kremlin se fasse passer pour un faiseur de paix et pour un pacifique, sans jamais proposer rien de tangible et d'acceptable sur la table, notamment jusqu'à l'élection présidentielle américaine, eh bien, il le fera. Et d'ailleurs, ça commence déjà. Et le but est de montrer à la fin, de convaincre Washington et d'autres, que les seuls qui ne veulent pas la paix, c'est les Ukrainiens qui s'acharnent, vous voyez, comme des hystériques, ça c'est les termes russes, hein, dans cette guerre dans laquelle ils n'ont aucune chance. Et l'épuisement, je vais aller très rapidement pour conclure sur la possibilité d'un épuisement d'un des deux belligérants. Je dirais que le plus probable, ce serait l'Ukraine, compte tenu du rapport de force initial et de son évolution, en fait. Hein. Et je dirais que c'est ce que je mentionnais rapidement tout à l'heure. L'Ukraine, elle a la faiblesse d'être une démocratie, mais c'est aussi sa grande force. C'est d'abord une grande force parce que les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Et c'est peut-être le point fondamental. Mais en même temps, c'est une faiblesse parce que l'Ukraine est confrontée à un manque de visibilité, à une potentielle instabilité, à un potentiel manque d'efficacité. C'est vrai en Ukraine, mais c'est vrai aussi aux États-Unis. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe. Aux États-Unis, où l'élection possible de Trump pourrait renverser la table, où des sujets importants comme la guerre en Ukraine est prise en otage par des de la politique aérienne, des confrontations politiciennes temporairement. Et voilà, après, je dirais quand même que la Russie ne devra pas trop jouer avec, avec Trump ou avec un personnage du Maï Maccabi, dans la mesure où Trump est moins pro-russe qu'il ne cherche une forme de rétribution des efforts des États-Unis. C'est-à-dire que si l'Ukraine et l'Europe s'accordent, s'arrangent pour payer en espèces sonnantes et trébuchantes une aide matérielle massive des États-Unis, il est très probable que Trump ne s'engage pas forcément dans une négociation en fait avec la Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Simplement, il faut payer. C'est ça le maître mot de l'administration Trump, une administration Trump éventuelle.
Bien, merci beaucoup Dimitri Mini, qui a beaucoup de points sur lesquels on pourrait revenir, des points qui sont sujets, je pense, à débat et même à controverse. Mais il nous faut conclure, donc je vous remercie sincèrement d'être venu à ce micro aujourd'hui. Et on ne saurait trop recommander la lecture de vos publications qui peuvent être téléchargées sur le site de l'IFRI, www.ifri.org, ainsi que de votre livre « Pensée et culture stratégique russe ». Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode du Monde selon l'IFRI.